c'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi? Moi, je t'aime comme on aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière de tes bras, comme prima.
Bonsoir Madame Ginette, bien le bonsoir Monsieur Edmond, bien le bonsoir à Monsieur Kogan qui n'est pas avec nous ce soir mais que l'on salue cependant. C'est Je m'ennuie bien qui commence, nous sommes ensemble pour une heure.
Ou peut-être moins, hein, parce que sans Monsieur Kogan, je ne sais pas si on va tenir.
On trouvera toujours des bêtises à raconter.
Il est bavard quand même le monsieur, j'en profite qu'il n'est pas là pour dire du mal de lui évidemment.
Votre courage et votre franchise vous honorent.
C'est je m'inspire du monde qui nous entoure.
Pas trop, peut-être.
Elle allume un cigarillo alors qu'elle est sous oxygène. Une patiente de 75 ans déclenche un feu dans un hôpital.
Pardon ?
Eh oui, il ne faut pas faire ça. Hein. Donc, le petit cigarillo sous la tente à oxygène, non, en oxygénothérapie.
Mais
non,
déjà,
non, madame.
Elle est sous oxygène, c'est qu'elle ne peut pas respirer bien. À quel moment on fume ?
Ah bah écoutez, tout ça est mystérieux. C'est ce qui fait le charme de l'humain.
Excusez-moi, vous m'avez achevé.
Alors que ce sont les premières minutes de l'émission, vous auriez dû ménager votre effet, monsieur Edmond. On fait pas ça sans transition.
C'est je m'ennuie bien, on y va à fond les manettes. Comme on dit dans les bombardiers américains.
Non.
Alors, justement, on va parler rapidement. Moi, j'ai juste un petit titre rigolo. Et je crois que madame Henriette nous amènera à Dubaï.
Non, enfin, très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
Donc, vous le savez, évidemment, au début de ce qui occupe tous les journaux, toutes les télés en 24 heures sur 24, ils ne savent plus quoi raconter d'autre. Eh bien, des malheureux touristes sont restés bloqués à Dubaï. Oh là là, comme on les plaint. Et parmi eux, quand même, ça fait plaisir. Si, un
je
gars...
sens que vous allez être très très mesquin.
Ouais, c'est ouais. Le directeur de la rédaction du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, eh bien oui, il s'est retrouvé coincé à Dubaï. Alors, vu les titres qu'il fait en France dans son magazine, assez horrible, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas ?
Ben, vous voyez bien qu'il n'a pas peur des musulmans.
Ben ouais, c'est bizarre quand même. Alors, en plus, il n'arrête pas de faire. Ouais, c'est aussi un magazine où on n'arrête pas de parler de l'argent public et tout ça. Et lui, il va dans une pétromonarchie. Bon, mais c'est assez original, hein, je dois avouer.
Oui, mais c'est pas de l'argent public.
Allez, encore un sondage qui sert à rien.
Et vous savez, le meilleur moyen pour que l'argent public ne soit pas dépensé à tort et à travers, c'est que les riches ne paient pas leurs impôts. Comme ça, il n'y en a plus d'argent public.
Eh oui, pas bête. Alors, c'était dans le Parisien a cru bon de faire un article sur un sondage. Bon, chez les 15-30 ans, un homme sur trois juge qu'une femme doit toujours obéir à son mari. Ah, elle reste sans voix, les dames de
Alors,
l'émission.
Et là, c'est le moment où j'ai envie de vous citer, monsieur Edmond. Un sondage, ça n'a aucune valeur informative. Et celui-là, j'ai pas envie qu'il en ait une.
Ouais, non, il n'y en aurait pas.
Allez, par contre, une enquête beaucoup plus poussée, c'est dans Le Monde, l'édition Campus. Ouvrez les guillemets. Sans un miracle ou des parents riches, c'était impossible, fermez les guillemets, quand l'origine sociale entrave l'accès aux études. Je rappelle que nous sommes en France au 21e siècle.
C'est ça.
Voilà. Eh ben, vous voyez, on a les priorités qu'on veut, hein, mais visiblement pas celles que les jeunes puissent étudier tous avec équité.
Vous avez dit plein de choses, c'est complètement bizarre dans cette phrase.
Comme
jeune, études, équité déjà.
Enfin,
c'est
bon,
ça, pour commencer.
C'est quand même franchement malheureux qu'on en soit là. Voilà, bon, c'est comme ça. Allez, beaucoup plus fun. Et d'ailleurs, c'est peut-être, j'espère que je vous ne coupe pas l'herbe sous le pied, Madame Ginette, puisque nous allons en Écosse, qui vient de légaliser la crémation par l'eau, durant laquelle le corps du défunt est bouilli à 150 degrés. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut mettre des petites herbes quand même dedans ?
Alors...
comment
mais oui. non, mais non, Madame Ginette, enfin.
Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu.
Je vous laisse répéter.
J'ai dit que c'était du haggis.
C'est quoi? C'est un plat anglais?
C'est le plat typique écossais. C'est la panse de brebis farcie, c'est ça?
Exactement.
Mmh. Oui. Alors.
Oui, Madame Ariadne, qui a l'air spécialisée dans les eaux.
Alors non, moi je fais pas du thé avec un cadavre qui infuse dedans. C'est pas ça du tout. Mais
non, merci.
Juste un doigt.
De toute façon.
Il va falloir faire attention là-bas maintenant quand on dit un doigt de quelque chose. Ouais. Oui, allez-y.
Vous savez, de toute façon, alors je ne sais pas pour les Écossais, mais les Anglais, ils font bouillir l'eau donc pour faire le thé. Donc on a déjà la première partie de la recette. C'est une espèce de petit retour vers le futur, ou en tout cas retour vers le passé, puisque c'était le moyen que l'on avait de conserver au Moyen-Âge, et même un petit peu après, les corps des personnes, des dignitaires, enfin des gens que l'on avait besoin de conserver. Lorsqu'ils ne mouraient pas au bon endroit et qu'il fallait les ramener, il était absolument hors de question...
De les faire voyager sur un chariot pendant 3 semaines.
Au mois d'août. Donc, en fait, on les faisait bouillir avec des épices, des herbes et tout, en fait, et on séparait donc la chair et les os. Voilà.
Et on gardait que les os, donc.
Bon appétit à ceux qui vont passer à table.
Non, mais c'est chouette, hein. Allez, c'était dans le New York Times. Moi, je pensais
c'est un peu, ça devient un peu la cuisine des mousquetaires, cette émission.
Voilà.
pour les plus vieux.
C'est vrai, qu'est-ce qu'elle aurait dit, Maïté? Alors, New York Times, je pense qu'il y a un journaliste, mais je ne sais pas, il était désœuvré complet. On lui a dit non, toi, tu ne comprends rien aux enjeux stratégiques, tu vas aller faire autre chose. Et donc, la relation entre un joueur et son caddie est sacrée. Et donc, il fait tout un article là-dessus. Écoutez bien, et sacré jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il n'y a pas de contrat, pas de sécurité de l'emploi. Je savais que ça vous ferait plaisir, Madame Ariette.
Un caddie saute de joie.
Peut être embauché ou licencié à tout moment, mais lorsqu'un duo est formé, ils restent ensemble. C'est beau, non? Bon, j'ai pas lu le reste de l'article, hein, ça avait l'air vraiment pénible.
Oui, ça va, c'est une version moderne de l'esclavage, c'est pas inintéressant.
Archéologie. Et ça va vous intéresser, Madame Ariette. Je vais vous donner un peu de lecture. Anne Augereau, spécialiste de la préhistoire, ouvrez les guillemets, c'est dans Libération, le matriarcat n'a jamais été observé nulle part. Et donc, c'est la thèse qu'elle défend dans son dernier livre, son dernier essai. Donc, cet archéologue de l'Institut national de recherche archéologique préventive, également appelé l'INRAP, et donc dans son essai, Une préhistoire des femmes. Je suis sûr que c'est un livre que vous allez essayer de trouver, Madame.
Alors,
Ariette.
Le matriarcat n'a jamais été observé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas eu d'études ou est-ce que ça n'a pas existé?
Elle pense que ça n'a pas existé, que très, très rapidement, c'est les hommes qui ont décidé dans les tribus. Mm. Il faudrait lire son essai. Elle se penche sur les dernières recherches. Voilà. De la fin du néolithique, jusqu'à la fin du néolithique, des débuts jusqu'à la fin du néolithique. Vous avez l'air chonchon, Madame Ariette.
Non, je réfléchis.
Ça vous étonne.
Je réfléchis. Je ne sais pas s'il faut le dire aux masculinistes qui ont très très peur que les femmes prennent le pouvoir et les tuent tous, car on sait bien que dans l'histoire, c'est bien toujours dans ce sens que ça s'est passé, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui tuent les hommes. Statistiquement, c'est une évidence.
Alors, c'est vrai que si on regarde dans la mythologie, ça arrive une fois avec les Amazones, mais c'est à peu près le seul exemple que je connais, moi. Je ne sais pas si... Peut-être sur d'autres continents, ça existe aussi.
Ce n'est pas historique.
Non.
Ouais, mais c'est moyennement historique.
C'était au moins dans un mythe. Donc, il y avait au moins un mythe qui faisait ça.
Oui, c'est ce que je vous dis. Déjà, il y avait des masculinistes qui avaient peur qu'il y ait des femmes qui se tiennent pas à leur place de femme et qui tuent les hommes et qui les grands remplacent.
Et il me semble, mais il faudrait que je retrouve...
Bon, ceci dit, la civilisation grecque classique, au niveau patriarcat et machisme, ils sont pas trop mal placés quand même.
Ils sont bien, ils sont bien. Non, mais...
Ouais, semblerait, ouais.
Et il me semble qu'en Afrique, il y a eu un matriarcat, il me semble. Il faudrait que je retrouve... Bon, allez, c'est pas grave. Allez, un petit titre pour Madame Henriette, mais un titre vraiment mal tourné. Je ne parle même pas du chapeau, parce que vous allez voir, c'est en fait, vous lisez les 6 premières lignes, vous ne savez toujours pas de quoi le mec veut parler.
Ah, dommage.
Un travail rondement mené.
Ouvrez les guillemets. Il était en danger immédiat. Fermez les guillemets. L'intervention inattendue des gendarmes sur l'autoroute A9.
Ah, oh, bah la mince, faut que je dise la suite, parce que sinon je sais pas de quoi il retourne.
Ce mardi 10 mars, les gendarmes des Pyrénées-Orientales ont réalisé un sauvetage peu habituel sur l'autoroute A9 au niveau du péage sud de Perpignan.
Bon, mais tu vas nous dire quand l'histoire, là ? C'est quoi, ça ? C'est de l'info, vraiment ?
Allez, non. Je l'ai gardé quand même, parce que qu'ont-ils sauvé sur l'autoroute A9, nos amis gendarmes ?
Est-ce que c'est une bête ?
Oui, absolument, madame Mariette.
Alors, une grosse ou une petite ?
Ça dépend à partir de quand on est gros, à partir de quand on est petit.
Oula, on se lance dans un débat extrêmement périlleux.
Oui, quand même.
Je ne sais pas, un chien ?
Non.
Un sanglier ?
Un peu plus, comment dire, un peu moins commun qu'un
spécial
chien.
Spécial dédicace à Madame Freddy. Un sanglier !
Non, bon, à mon avis, je ne serais pas déplacé pour sauver un sanglier.
Vous ne savez pas. Ouais, comment ouais, ça s'appelle, ouais. L'amour des sangliers ?
La sangliophilie, voilà. Et il y a la sangliothérapie aussi, très efficace.
Oui, 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 ça, c'est, vous êtes soigné avec des sangliers. Tout de suite, vous vous sentez mieux rapidement.
Non, il s'agissait d'un rapace qui avait été signalé par donc des automobilistes. Et donc, les gendarmes, les militaires se sont rendus sur place et ont sauvé ce rapace qui s'était blessé à l'aile et qui n'arrivait plus à redécoller.
Ah oui, ben donc, ils sont pas tous à Dubaï.
Et dans leur style, évidemment, propre à eux, les gendarmes ont déclaré aux journalistes l'animal était en danger immédiat sur la chaussée.
Exactement. Exfiltration.
Voilà, c'est ça. Allez, juste avant, je développe un tout petit truc avant de donner la parole à Madame Ginette, parce que je sais qu'elle aime bien les Anglais.
Oui. Ça dépend, cuit ou cru ?
Bouilli.
Oui, ben avec de la menthe.
Évidemment.
Et évidemment, les Anglais, quand les Américains et Israël ont attaqué là-bas, l'Iran, ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Si d'habitude, on fait tout ce que font les Américains.
Et vous nous rappelez un tube de notre jeunesse. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Et voilà, c'est ça. Alors, ils se sont dit, bon, ben, peut-être il faudrait quand même qu'on se bouge la nouille.
Ah bon, on se dit ça diplomatiquement.
Je sais pas comment on dit en anglais.
Alors, vous pensez
move the nouille. Bon, en tout cas, donc ils ont fait appel évidemment à ce qui est le fleuron de l'armée anglaise, la Royal Navy.
Royal Navy, oui.
Et notamment, et en plus, il faut savoir que les Anglais ont toujours une base à Chypre.
Oui.
Parce que oui, on en a entendu parler.
Ben voilà.
C'est ça.
Donc, les mecs qui sont là-bas, et puis les chypriotes de l'île et tout ça, ils se sont dit, bon, bah, ils ont une base. Ça se trouve, les Iraniens vont essayer de tirer sur la base. Peut-être qu'il faudrait que... Hein. Donc, il était prévu qu'on envoie là-bas le Dragon, un des 6 destroyers les plus affûtés de la Royal Navy.
Ça aurait été plus rigolo, un vrai dragon.
Voilà, c'est ça.
Paraît-il même qu'il est hyper performant, l'un des plus performants au monde. Il peut lancer jusqu'à 8 missiles en moins de 10 secondes.
Mais pourquoi ?
Ah, je sais pas.
Quand on a pris un missile dans la tronche, en général, ça suffit. N'en jetez plus.
C'est des missiles, évidemment, pour taper d'autres missiles, vous voyez ?
Vous en voulez de la gabegie ?
Hein ? Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est ça. On fait péter des missiles dans le ciel contre d'autres missiles. Non, mais vous voyez combien ça coûte. Hein, enfin, bon, ça, c'est des feux d'artifice qui... Hein, ça dépote. Et alors, le bateau, il a eu du mal à partir. Parce qu'il n'était pas prêt.
Un vieux diesel, qu'est-ce que vous voulez ?
Pas du tout, il est tout moderne, mais... Un bateau, pour qu'il parte, il faut quand même le ravitailler, mettre l'armement, tout ça. Et en fait, là, bon, ben, comme il y a des coupes budgétaires, il n'y avait rien de prévu. Donc, avant qu'ils puissent préparer le bateau pour qu'il parte...
Le stock de coton-tige était à zéro.
Eh bien, laissez-moi vous dire que la Grèce, l'Espagne et la France avaient déjà envoyé des bateaux qu'on attendait toujours la Royal Navy. Alors, quand vous arrivez après la Grèce, je ne veux pas dire, mais enfin, c'est un peu la loose.
Oui,
hein.
Keep calm and carry on.
Même s'ils sont plus prêts, quoi, d'habitude, bon...
Donc c'est le flegme britannique.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'était flex, tranquille.
C'était l'acrotirie, donc la fameuse base. Bon, ben, ça a beaucoup fait parler au Parlement, hein, parce que les gens, ils ont dit, mais enfin, on passe pour des guignols.
Oui, en plus, bon, il y a quand même des sujets de fierté nationale dans ce pays.
Ouais. Alors bon, évidemment, Ils se sont renvoyés la balle les uns les autres pour savoir qui avait coupé les budgets, hein, classique. Mais faut dire quand même que ça fait un moment que ça dure là-bas, puisqu'en 96, la Royal Navy avait encore 3 porte-avions, 12 destroyers, 24 frégates et 12 sous-marins d'attaque. Et aujourd'hui, ils en sont à 2 porte-avions, 6 destroyers, 7 frégates et 5 sous-marins. Autant dire
mais
que...
Mais il y a un dragon.
Maintenant, il y a un dragon. Ça calme.
Voilà. Quand il part, il part. Mais il faut qu'il arrive. J'ai pas regardé d'ailleurs. Je sais pas s'il est arrivé finalement. Enfin bon, voilà.
Où en est-il ? Suivons ma piste.
Ouais. Est-ce que le dragon est arrivé sur place ? On ne sait pas. Bon, en tout cas, voilà, c'était assez rigolo. La Royal Navy, c'est plus ce que c'était. Hein.
Et maintenant, tout le monde imagine un trop mignon dragon noir avec des grands yeux verts.
Exactement.
Qui crache donc 10 missiles par seconde
et
par les naseaux.
Et qui mange des poissons, ce qui est cool à Chypre.
Oui.
Allez, Madame Ginette, que nous avez-vous préparé dans Je m'ennuie bien ?
Je vous ai préparé déjà le Grand Prix de l'adaptabilité et de la, comment dire, la malignité, entre guillemets, hein, la malinesse. En gros, quelqu'un de super rigolo et de très malin à Ornaison, dans l'Aude. Où, vous le savez, en ce moment, on va pouvoir tailler les vignes. Sauf qu'il s'éparcé des trucs dans l'Aude dernièrement.
De l'eau,
beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Mais malgré tout, il faudrait quand même tailler les vignes, mais les vignes, elles sont dans l'eau, donc il y a un agriculteur qui a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Comment s'en est-il tiré de sa mésaventure aquatique ?
Il taille les vignes en kayak.
Exactement !
Ah, c'est pas vrai !
Bon, j'allais dire qu'il avait racheté un sous-marin à la Royal Navy, mais non.
Ah ben non, il n'y a pas
il
assez...
Il a préféré le kayak.
Il n'y a pas assez de profondeur quand même, n'exagérons rien. Vous avez vu la hauteur de cep de vigne ?
Non, non, il a décidé, il dit c'est plus long, mais ça se fait.
Alors par contre, oui, c'est ça. Comme
mais
y a
par
très
contre,
peu
la vigne, ça va donner quoi ?
Si, comme il y a très peu de profondeur, si vous vous retournez en kayak, vous ressortez la tête pleine de boue. Hein.
Bah, ça donnera quoi ? Il verra plus tard, ça, il en sait trop rien, mais il essaye, il y va quand même. Détermination.
Ah, mais s'il aura peut-être fait tout ça pour rien.
Ah ben non,
il aura noyé ses cèpes.
Exactement, il aura perfectionné sa technique de pagaie.
Je suis bien d'accord, c'est pas gay. Bon, alors, Madame Ginette.
Oui.
À part l'Aude,
je voudrais aller en banlieue parisienne.
Oh là là.
Figurez-vous qu'il y a un train qui, toute la journée, fait Montargis, gare de Lyon, gare de Lyon, Montargis. Jusque-là, normal. Mais entre 8h16 et 9h16, et donc à deux reprises, pas plus. Il s'arrête à un endroit dédié. Il ne s'arrête que entre 8h16 et 9h16 et que deux fois, puisqu'il n'y a que deux trains qui passent dans cet intervalle-là. Où est-ce qu'est cet arrêt mystère ?
Ça, c'est vrai que c'est fort.
C'est pour
étrange.
Faire passer un troupeau de moutons.
Non.
Non, parce qu'il y a eu récemment un article dans Le Monde pour dire que Montargis était une ville entre ville et campagne, justement. Mais il n'y a peut-être pas de troupeau de moutons.
Mais il s'arrête pour laisser descendre des gens ?
Exactement.
Ah.
Alors, qu'est-ce qu'il y a entre Montargis et Gare de Lyon ?
C'est ce que la SNCF appelle l'arrêt spécial. Mais c'est un... Voilà.
C'est vachement plus sympa que l'opération spéciale, par contre.
Oui, on est d'accord. Bah, si vous connaissez un peu le coin, vous pouvez peut-être un peu trouver, mais il faut connaître le coin.
Montargis, c'est dans le Loiret, hein ?
Oui.
Ne me regardez pas comme ça, madame, arrête, j'y suis pour rien, moi.
Bah écoutez,
je n'ai absolument aucune idée de pourquoi il y aurait un arrêt qui n'est desservi que deux fois par jour.
On traverse la Seine, probablement.
Non, parce qu'en fait, Gare de Lyon, c'est plus ou moins en bordure de Seine, donc il...
Mmh. Ouais, il est en dessous, ouais, c'est en dessous. Bon, ben, je ne sais pas, ouais. Madame Ginette, pourquoi il fait ça, ce train ?
Alors, l'arrêt spécial, c'est Fontainebleau-Forêt.
Oh.
C'est un tout petit quai en pleine gare de Fontainebleau. C'est un quai en gravier, il n'y a même pas de gare ni rien. En
c'est
gros,
pour
le
aller se promener, c'est pour les promeneurs ?
C'est pour les randonneurs, tout à fait. Donc, c'est uniquement les week-ends et jours fériés. Il y a deux trains qui s'arrêtent à Fontainebleau-Forêt. Uniquement la rame avant, parce que c'est tellement petit que la rame arrière est condamnée. Et c'est un accès direct au cœur de la forêt de Fontainebleau.
C'est trop mignon. Par contre,
c'est absolument trop mignon.
Pour repartir, ils font comment ces gens ?
Mais il y a un arrêt dans l'autre sens.
Pour repartir, ils partent par la gare de Fontainebleau, par Bois-le-Roi ou par Thomery, parce que je me suis renseignée. Et comme c'est des randonneurs, de toute façon, le but de la rando, c'est de partir de Fontainebleau-Forêt, de traverser toute la forêt de Fontainebleau et d'aller après avec, sur les gares extérieures.
D'accord.
Voilà. Et, connaissant quelqu'un qui l'a fait, apparemment, c'est vraiment super chou.
Très bien. Mais écoutez, nos Parisiens ont du talent.
Ouais.
Exactement.
Donc, ça veut dire que si un cerf veut aller à Fontainebleau, en voie directe, il suffit qu'il monte à ce moment-là.
Bah, s'il part de Montargis ou de Gare de Lyon, oui.
C'est pas mal.
Après, voilà, ça dépend d'où habite le cerf au départ, si vous regardez bien.
Ah, ouais, c'est vrai.
Qui se méfie quand même. Hein. Le Loiret, c'est un pays de chasseurs. Hein.
Oui, bon, c'est pour ça. Bah, peut-être que justement, pour fuir Montargis, hop, le train Fontainebleau direct.
Ah, ce serait tellement drôle.
Voilà.
Là, il s'agit de la possibilité. Oui, oui, allez-y, oui. Madame Ginette.
Non, pardon. Je voulais juste finir pour vous raconter très brièvement. Alors, pour info, le magazine Historia le fait beaucoup mieux que moi. L'histoire de la musique d'ascenseur.
Oh mon Dieu!
On s'est toujours tous demandé pourquoi la musique d'ascenseur, pourquoi ça s'appelle comme ça et surtout pourquoi ça existe.
Ah oui, ça, je me suis souvent demandé, moi, pourquoi ça existait.
Voilà, donc ça vient des années 20 où un inventeur, ouais, on peut appeler ça comme ça, a créé un fond sonore avec pour but d'être apaisant. Et il a, comment dire, il a fondé donc la société qui s'appelle Musac, donc le fameux terme de Musac, qui est une contraction entre musique et Kodak, parce que c'est une musique qui fait clic comme ça. Moi qui ai toujours cru que c'était une déformation un peu Musac, j'étais hyper déçue. Fin de la parenthèse perso. Et en fait, bon, bah, cette idée musicale, elle a continué à se développer parce qu'ils se sont rendus compte que oui, c'était apaisant. Donc, ils ont commencé à la diffuser dans les usines, et notamment les usines d'armement pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est vrai que oui, on a besoin d'être apaisé, oui.
Ensuite, ils se sont rendus compte que non seulement c'était apaisant, mais en plus, comme c'était apaisant, ça menait les gens à être un peu plus apaisés, certes, mais aussi disponibles. Donc, ils ont commencé à diffuser ça dans tous les endroits où on pouvait vendre des choses, dans les centres commerciaux et des choses comme ça, en fait. C'est devenu quelque chose d'un peu capitaliste dans des moments de vie, dans les bars, les halls d'hôtel, les aéroports, les choses comme ça. Et dans les funérariums. Pourquoi ? Pour apaiser les gens et leur donner envie d'acheter des cercueils plus chers puisqu'ils étaient flex.
Oui, alors ça fonctionne modérément bien quand même parce que il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin d'aller dans les supermarchés aux heures calmes et qui maintenant ont repéré les heures calmes pour justement éviter la musique.
Éviter la musique, tout à fait. Et ce qui a tué la Musac, c'est l'invention du baladeur en fait, parce qu'on est passé de musique collective à musique individuelle choisie. Et donc les gens, surtout dans les années 70-80, fin 70 et très 90, où il y avait beaucoup beaucoup de modes de baladeurs, de casques et de machins, c'est tombé complètement en désuétude. Donc le seul endroit où ça a perduré, c'est les endroits où finalement les gens ne sont pas longtemps, ont besoin d'être apaisés et en général n'ont pas leur casque, c'est-à-dire les ascenseurs.
D'accord, la musique d'ascenseur est redevenue de la musique d'ascenseur.
Voilà.
C'est très joli.
Et donc, la Musac au funérarium en Écosse, ça va être...
Ah, là, ça va bouillir, mais bouillir.
Vous m'avez beaucoup amusé, Madame Ginette, parce que vous avez dit que l'idée continuait à se développer après nous avoir parlé de Kodak. C'est vrai que c'était très fort, très subtil, bravo.
Ah oui, je suis...
C'est une blague de photographe.
Oui, non, mais voilà. C'est
de photographes qui ont connu l'époque argentique. Parce que maintenant, ça dirait plus rien à personne.
C'est
hein.
Dire si vous êtes vieux.
Ah bah oui, ouais, je suis croulant. Bon, bah écoutez, Madame Ginette, c'était formidable.
Voilà, notre petite balade. J'essaye d'avoir vraiment en ce moment des choses un peu good mood. Hein, pour les raisons qu'on connaît, il suffit de lire n'importe quel média plus de 34 secondes.
C'est ça.
Il suffit d'aller sur n'importe quel réseau social, plus de 34 secondes aussi.
Non, mais Madame Henriette, vous avez eu une mauvaise expérience, ça peut arriver.
Oui.
Vous n'avez pas les bons amis.
Oui, ces 15 dernières années, j'ai eu une mauvaise expérience.
Voilà. Donnez-moi votre liste d'amis, je vais vous arranger ça. Il faut savoir choisir.
Il faut bouillir.
Mais oui.
Il faut savoir choisir, hein. Allez-y, Madame Ariette, c'est à vous dont je m'ennuie bien. De quoi allez-vous nous parler ?
Eh ben justement, je vais vous parler de la sottise des réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, de ce qui remonte sur les réseaux sociaux. J'ai été fort amusée, mais qu'à moitié, de voir les réseaux sociaux s'émouvoir d'une information qui a été largement relayée, à savoir l'abandon des animaux domestiques à Dubaï. Et oui, car les gens qui quittent Dubaï en catastrophe et qui ne sont pas des Dubaïotes, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, les habitants de Dubaï.
Non, on dit des friqués.
Oui. Alors, si, ils sont friqués, mais ils s'en vont. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, laissent derrière eux leurs chats et leurs chiens. Donc, les refuges sont pleins. La ville de Dubaï y a installé des espèces de distributeurs automatiques de nourriture pour les chats qui sont dehors. Et les vétérinaires sont de plus en plus confrontés à des maîtres d'animaux qui arrivent à des animaux en parfaite santé et leur demandent de les euthanasier. Voilà.
Parce qu'ils quittent le pays ?
Parce qu'ils quittent le pays.
Et c'est trop compliqué.
Exactement, c'est trop compliqué. Il y a des histoires sanitaires. Bon, voilà, ils quittent le pays précipitamment.
Il y a peut-être des délais, il faudrait rester 15 jours en quarantaine. Tout
exactement, ça.
Ça
les ennuie. Donc, ils préfèrent abandonner ou faire euthanasier. Et encore, peut-être on trouvera des animaux morts de faim dans les appartements dans quelques semaines. Et oui. Alors, moi, ce qui m'amuse beaucoup, quand
oui,
même,
ça a l'air.
C'est que je suis quand même assez fascinée par la naïveté de notre siècle. C'est que, très franchement, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de gens qui sont allés cacher leur argent dans un paradis fiscal pour surtout ne pas avoir à le partager ? Franchement, en termes de loyauté, en termes de responsabilité, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose ?
Mais oui, on connaît des dictateurs qui adoraient leurs animaux de compagnie. Hein. Ils leur auraient jamais fait ça.
Vous avez des exemples ?
Ah oui, mais on ne va pas en parler à l'antenne. Hein. Moi, je ne vais pas faire la promotion de ces gens-là, hein, quand même. Non, vous êtes étonnés. Moi, je ne sais pas, j'ai toujours pas compris.
Ah non, moi, je ne suis pas étonné du tout.
J'ai toujours pas compris ce qu'on pouvait bien aller faire à Dubaï, mais bon, c'est un désert, le machin, il n'y a rien à y foutre. Mais bon,
si vous aviez de l'argent à cacher...
Alors, c'est si simple de prendre le train de s'arrêter en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, quoi. Enfin,
vous iriez le cacher avec d'autres gens riches. Et comme ça, vous pourriez toute la journée être avec des gens riches qui, comme vous, ne veulent pas partager leur argent avec les gens qui le leur ont fait gagner.
Non, moi, je pense que les riches, ils détestent encore plus les autres riches que les pauvres. Parce que ça leur renvoie qu'ils sont peut-être des fois même pas assez riches pour être avec les bons riches. Enfin, vous voyez, c'est horrible. Non. Autre chose, Madame Ariette.
On rigole, on continue ?
Mais bien sûr. Je m'en dis bien, c'est le fun, on est là pour rigoler.
Je vous amène en Corée du Nord ?
Non, vous y allez toute seule.
Non, mais Madame Ginette est enthousiaste, a priori.
Oui, parce qu'elle a vu la frangine de Kim Jong-un et elle la trouve fort sympathique.
Oui, c'est vrai, et puis ça s'arrange.
Toujours avenante, toujours souriante.
Eh bien, franchement, pour le prochain numéro de la famille Adams, ça le fait.
C'est un cyborg, il y a zéro expression sur ce visage.
Et pourtant, elle n'a même pas l'air opérée, hein, contrairement à d'autres actrices plutôt sud-coréennes qu'on se dit, c'est l'opération qui les a rendues. Non, là, visiblement, même pas, mais effectivement, c'est un style, hein, c'est bien réussi.
Ouais. Ça, c'est un style.
Ouais, je pense qu'effectivement, s'il y a besoin de faire parler quelqu'un, elle rentre dans la pièce... Fin de l'interrogatoire, la personne parle.
Mais c'est pas d'elle que vous vouliez nous parler.
C'est pas du tout d'elle dont je voulais vous parler.
Tant pis.
Je voulais vous parler de Kim Jong-un lui-même.
Ah bon, moi, j'espérais que vous aviez son 06.
Qui fait la tournée des popotes avec sa fille. On le voit partout avec sa fille. Alors, c'est une petite jeune fille de 13 ans, on pense. On n'en est pas sûr, hein, puisqu'évidemment, la stratégie consiste à laisser planer le mystère autour de Choué, que le dirigeant de la Corée du Nord n'appelle pas par son prénom. D'ailleurs, quand il parle d'elle, il dit son enfant bien-aimé. Voilà.
On se croirait à l'époque de Mao.
Ouf.
Oui, allez-y, allez-y.
Et donc, eh ben, écoutez, on les a vus à divers événements. Alors, l'un de ceux dont je voulais vous parler, c'est une visite d'inspection dans la principale usine de munitions du pays. Donc, voilà un papa qui s'est occupé sa petite fille.
De 13 ans, rappelons-le.
Voilà. Eh bien, ils se sont tous les deux entraînés au tir. Hein. Donc, on les voit au stand de tir en blouson de cuir noir. Hein. Donc, c'est trop convivial, trop mignon. On se croirait dans un épisode de Mon Petit Poney. Voilà. Et donc, juste après, d'ailleurs, une visite d'inspection pour des tirs d'essai de missiles de croisière.
Avec un mec accroché sur le missile, hein, ça fait toujours plaisir.
Ah, ben ça, c'est le côté un peu fun, quoi. Hein.
Voilà. Tu te souviens, là, du gamin qui t'a embêté à l'école ? Regarde, il est là-haut, au sommet du missile.
Donc, tout ça pour effectivement montrer que c'est toujours elle qui est pressentie pour lui succéder. Et puis, vous l'aurez deviné, Kim Jong-un donc continue à investir dans l'armement. Hein. Bon, après, en ce moment, il n'est pas le seul. On pourra dire qu'il aura été visionnaire. Hein.
Ouais, puis en ce moment, le pauvre, il a beau faire des simagrées, des machins, personne ne parle de lui. Hein. À chaque fois, il y a un truc qui lui passe par-dessus. Hein.
Alors, ils se sont beaucoup émus, lui et sa sœur, hein, de l'opération en Iran. Ils trouvent ça complètement insupportable hein, sur le plan du droit international. C'est pas...
Ah bah non, c'est pas correct.
Voilà, c'est pas correct. Un bon point pour Mojtaba Khamenei, c'est que Kim Jong-un a dit que c'était le bon choix.
Ah, comme c'est... Vladimir Poutine. Je vous soutiens, Mojtaba.
Et en plus, voilà, il trouve que c'est un très bon choix.
Ah oui, oui.
Et donc, pour terminer sur les événements people de Kim Jong-un et donc de sa fille, eh bien, ils ont assisté en famille avec la maman à un concert pour la Journée internationale des femmes. Où donc le leader nord-coréen a rappelé le rôle extrêmement important des femmes et leur a rendu un hommage que je vous cite, hein, puisqu'on a le verbatim par l'agence de presse nord-coréenne, qui est une agence de presse totalement indépendante et libre, comme bien vous vous en doutez. Voilà. Et donc, voilà. Notre révolution avance rapidement grâce à la force et au talent particulier des femmes, ainsi qu'à leur dévotion pleine d'abnégation des plus nobles. Moi, j'ai un message. L'abnégation, on en a plein le dos, nous, les femmes. Hein, voilà.
Vous avez un message pour Kim Jong-un ?
Oui.
Ça va pas bien, non ? Mais enfin, vous voulez qu'on ait des problèmes, Madame Henriette ?
Non, non, parce que l'abnégation, ça va 5 minutes et par contre, ça va pas 10 000 ans, quoi.
Hein ? D'accord.
Et là, on en est à peu près à ça, je pense.
Eh oui.
Ouais, pas loin.
Chez les 5-99 ans, 3 hommes sur 3 jugent qu'une femme doit toujours obéir à son mari. C'est un sondage en direct de Corée du Nord. Non, c'est pas ça. Pardon.
Bon. Je vous amène en Corée du Sud maintenant.
Ah, écoutez, on ça est vous plus dit. À ça après.
Allez, déjà un petit coup de chapeau pour les bons résultats de la Corée du Sud aux JO paralympiques d'hiver. Donc, eh ben, on salue In Yong-suk et Baek Ye-jin qui ont eu la médaille d'argent pour l'épreuve de curling fauteuil mixte. Et puis, il y a également eu une médaille d'or. Je vous retrouve tout de suite le nom de l'athlète. Donc, Kim Yoon-ji, qui est la première athlète sud-coréenne, a remporté l'or aux Jeux paralympiques d'hiver et elle les a remportés au biathlon en fauteuil.
D'accord.
Voilà. Donc,
vous ne suivez pas le sport en France, mais vous le suivez en Corée.
Non, mais là, je tenais à le souligner parce que alors, il y a un contexte quand même, c'est que la Corée du Sud est un pays particulièrement inhospitalier pour les personnes handicapées et en particulier pour les personnes en fauteuil.
Et donc, du coup, c'est relayé là-bas quand même ou c'est...
Moi, je l'ai trouvé
sur... d'en parler.
Je l'ai trouvé sur leur agence de presse, donc c'est pas secret
non
plus.
Donc, c'est pas secret. Donc ça... Ils essayent de faire bouger un peu les choses, donc au moins pas par le biais sportif. Il faut reconnaître que pour ce qui est du soft power et des K-dramas, c'est vrai que la personne en fauteuil roulant, je ne sais même pas s'il y a un K-drama avec... Est-ce que vous en avez vu un, Madame Henriette, avec quelqu'un en fauteuil roulant ? À croire qu'il y en a.
Alors,
pas
oui,
en Corée.
Alors oui, si. Le riche...
Ah
le,
oui, quand le, il vient passer son voilà. procès, qui fait croire qu'il est trop,
voilà,
trop
le,
atteint.
Le riche chef d'entreprise corrompu, quand il doit passer en procès, bizarrement, il ne peut plus marcher. Il arrive avec sa petite couverture sur ses jambes. Enfin, c'est terrible.
Oui, non, mais un cas drama où le héros ou l'héroïne serait handicapé. Ah si, il y avait eu un truc, il me semble, sur une aveugle au moins. Comment elle s'appelait
Alors, il y en a plusieurs.
Ouais.
Mais,
donc,
mais...
l'aveugle, ouais. Et le muet, peut-être. Sourd-muet, ça arrive, qu'on voit le langage des signes.
Et, ben, et a priori, il y a des handicaps possibles et d'autres qui ne
ouais,
le sont pas.
D'accord.
Mais non, en réalité, il y a eu... voilà. Le défaut d'accessibilité des équipements publics, c'est un vrai problème en Corée du Sud.
Oh, c'est des nazes, alors que nous, en France, c'est réglé depuis longtemps, quand même.
J'ai pas dit ça.
C'était tout sur la Corée du Sud ?
Mais non, j'en ai encore. On a toujours Madame Ginette ?
Oui, tout à fait. Pour les K-dramas, je voulais revenir sur quelque chose parce que je n'ai pas du tout une grande connaissance. Mais vous parliez du handicap. Alors, deux petites choses. Déjà, c'est langue des signes et pas langage des signes parce que c'est une vraie langue. Et,
il y en a plusieurs, pardon. Langue des signes, alors.
Non, puis même, c'est langue, c'est pas un langage. Et surtout, j'ai l'impression... que les handicaps psychiques sont plus représentés. Je pense à deux séries qui tournent autour de l'autisme, It's a Canada to be okay, et Attorney, Extraordinary oui. Attorney Who. Mmh.
Qui devrait avoir une deuxième
deux
saison,
vu,
d'après
hein,
ce que
je
j'ai compris.
Je me la pète, mais ouais. C'est les deux seules que j'ai vues, c'est pour ça. Mmh. Qui ont bien marché et qui sont vraiment autour d'un personnage en spectre autistique. Mmh.
Tout à fait.
Que c'est vraiment le handicap physique à un côté... Alors un côté, après, le corps ne fonctionne pas et on connaît l'importance du corps en Corée du Sud. Quoi.
C'est vrai qu'il parle aussi beaucoup de la dépression. C'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment.
C'est vrai.
Et alors, c'est aussi une façon pour, c'est aussi une façon d'en parler par un moyen quelconque, parce que la prise en charge est assez défaillante.
D'accord.
Voilà.
Parce qu'on a presque l'impression, comme il y a un culte du corps en Corée du Sud, que les handicaps psychiques, psychologiques passent mieux, alors que les handicaps du corps, le corps défaillant, ça les crispe complètement, en fait.
Bon, je pense que sans caricaturer, on peut dire qu'il y a une obsession de la perfection à tout point de vue.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais je suis d'accord avec Madame Ginette que sur le corps, c'est quand même flagrant, hein, parce que même les gens en surpoids ou les choses comme ça apparaît très très peu, hein, quand même.
Oui.
C'est du premier au dernier petit rôle, quoi. Ils essayent de prendre des gens, effectivement, qui ont une espèce de prestance, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, en tout cas.
Non, et qui ont tous un corps qui est un corps considéré comme beau, mais qui est ultra charté, en fait.
Ah ben, oui, c'est le problème de la norme.
Selon leurs critères, ouais, selon leurs critères.
C'est
ouais.
Le problème de la norme.
Après, bon, voilà, c'est mon analyse de comptoir, mais voilà.
Ouais, mais on est au comptoir, hein, ça va bien, hein.
Oui, ça va.
Qu'est-ce que vous commandez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Là, j'ai un petit cadavre à faire flamber. Là, qu'est-ce que... Un orteil ? Je vous propose un orteil, un orteil macéré. Bon, allez. C'était tout ? Ah, non, vous
non,
m'avez dit que vous aviez autre
tout.
Chose. Pardon,
non,
madame,
c'est pas tout. Puisqu'on parle justement de corps parfait et de corps travaillé, vous voulez pas qu'on parle du retour de PTSE ? BTS, donc ? En français.
Non, je veux pas, non.
Eh ben, vous avez tort, parce que c'est un vrai...
Mais on en avait déjà dit deux mots, hein, parce que
c'est
ça
un
va
vrai
être
souci.
Un événement absolument incroyable.
Exactement, c'est le 21 mars, leur concert à Séoul.
C'est le jour du printemps, ça, non ? C'est quoi ?
Oui. Il y aura un gros concert à Séoul, qui, d'après ce que j'ai compris, les places sont gratuites.
Et comment ils ont choisi, alors ?
Alors, c'est bien ça, le problème. Le problème, c'est qu'ils ont mis les places, alors pas en vente, mais ils ont ouvert la billetterie. Donc 15 000 places sont parties en une demi-heure. Et
le reste, ils sont encore en train de se battre, là.
Et le reste, ils ont rajouté 7 000 places, mais qui seront plus loin. Et les gens, donc, seront debout et n'auront que des écrans à voir. Ils ne pourront pas être prêts. À l'endroit où va se jouer ce concert... ils attendent 260 000 personnes. C'est extrêmement angoissant dans une ville qui a connu la bousculade.
C'est-à-dire des gens qui
ne
pourront pas rentrer dans le truc, mais ils seront autour, juste là pour...
Bah, ils seront dans le quartier. On ne pourra pas empêcher l'accès au quartier. Donc, il va y avoir des barrières partout.
Mais pourquoi faire aller dans
il va y avoir... Il va y avoir des milliers de policiers pour essayer de gérer ça. Je vous rappelle, donc, il n'y a pas si longtemps, il y a eu donc, ce qu'on appelle la bousculade d'Itaewon, où il y a eu plus de 100 morts lors d'une fête d'Halloween où les gens se sont retrouvés coincés dans une rue, ils ont été étouffés. Et donc, le traumatisme est encore très vif pour les Coréens. Il y a également la crainte d'un attentat, évidemment. On est dans une situation géopolitique un peu compliquée quand même en ce moment. Enfin, bon, voilà, c'est quand même sous haute tension. Et c'est un gros sujet de préoccupation, ce concert, puisque donc on sait qu'il y aura un monde tout à fait impressionnant. Et juste un petit
c'est d'autant plus incompréhensible quand même, parce qu'en plus il est retransmis en direct, ce machin, sur une grosse plateforme.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et bah oui, mais bon, les gens veulent être là, vous savez.
Mais être là, si vous êtes là et que vous pouvez pas rentrer dans le truc, vous voyez rien.
Mais vous êtes à moins de 100 mètres à vol d'oiseau de vos idoles, voilà. Donc c'est
n'importe quoi. On est d'accord.
On est d'accord. C'est un petit peu n'importe quoi, mais on est vieux, nous, on peut pas comprendre ça. Et on peut pas comprendre la ferveur. Juste une petite anecdote. Le BTS sort un album.
Un 45 tours.
Cet album s'appelle Arirang. Et alors, Arirang, c'est pour les Coréens, pour le coup, c'est une énorme valeur symbolique. Arirang, c'est la plus vieille chanson coréenne connue. C'est une chanson populaire qui a 600 ans, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Alors, ils font vraiment rien au hasard, hein, ces gars-là. Hein. On sent que c'est la grosse machine.
Bien sûr. Alors déjà, c'est une très grosse machine commerciale.
Et donc ça, c'est le nom de l'album. Donc ils prennent un nom coréen et ils veulent vendre ça au monde entier.
Symboliquement, voilà. Oui, symboliquement, c'est l'album qui marque leur identité coréenne. Je vous fais écouter Alors il y a des milliers de versions de Arirang, parce que vous doutez que.
Oui, mais
chanson...
celle de BTS, on l'a toujours pas, parce que ça sort tout le.
Non, mais ça, c'est le nom de l'album. Moi, je vous fais écouter la chanson populaire et traditionnelle.
Oui, mais donc dans l'album, peut-être ils reprennent ce truc.
Et si vous vous taisez pas, je pourrais pas.
Non, mais je me tairai si je veux.
C'est bien le problème avec vous.
Je suis un homme, moi.
Donc, vous vous doutez bien que ça ne sera pas ça, hein, l'album.
15e étage, s'il vous plaît. Pardon, oui. C'était mesquin.
Ah ben c'est la vraie chanson traditionnelle, là. Hein. Ça rigole pas.
Oui,
hein.
Effectivement, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu à plein d'endroits, à plusieurs reprises. Oui.
Alors, en cherchant pour cette émission, j'ai même trouvé une version militaire française par je sais plus quoi, la troupe du commandant, je sais pas quoi, donc chantée par des soldats français.
À l'époque où ils allaient faire le coup de poing en Corée ou.
Je ne suis pas remontée jusque-là, je ne saurais vous dire de quelle époque ça date, mais je me suis dit, là quand même, Arirang, c'est vraiment une chanson connue.
Purée, vivement la version de BTS. Je suis toute impatience.
Mais ça risque d'être différent.
Non, je ne vois pas pourquoi vous dites ça.
Et je doute qu'ils fassent la chorégraphie en vêtements d'époque, mais...
Et avec leur espèce d'instrument bizarre là, par terre, là, avec plein de cordes.
J'adore quand vous parlez de ce genre de choses, monsieur Edmond. C'est tellement rafraîchissant.
Bah oui. Bon, vous en avez fini avec la Corée du Sud ?
Je peux encore vous dire un petit quelque chose.
Non, mais ça y est. Alors après BTSE, Blackpink.
Alors, non, je ne vais pas vous en parler, mais quand même si, en fait, là aussi, gros démarrage pour le single qu'elles viennent de sortir. Bon, moi, c'est pas ma scène, donc je vous dirai pas, je ne ferai pas de commentaires sur la qualité musicale du truc. Non, une petite anecdote qui peut être étonnante un peu pour nous. Alors, le cinéma coréen fait pour les Coréens, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, puisqu'en fait, les Coréens soutiennent les films qu'ils aiment exactement comme ils soutiennent les groupes. C'est-à-dire que pour soutenir un film qu'on aime, on va le voir plusieurs fois. Et donc, ça donne des scores en nombre d'entrées qui sont ahurissants. Je vous rappelle, c'est un pays de 50 millions d'habitants. Donc, The King Wardens, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vient de dépasser les 12 millions d'entrées. Voilà. Donc, c'est...
Alors, c'est avec qui ? Il y a un de vos chouchous là-dedans ?
Pas du tout. Non, au contraire. Il y a l'acteur principal, c'est un acteur que je trouve pas très convaincant dans les dramas, mais peut-être qu'il est convaincant dans ce film. Je ne sais pas.
Un film d'action, c'est quoi ?
Pas du tout. C'est un film historique.
Oh.
C'est l'histoire d'un de leurs rois qui a été exilé au 15e siècle et qui a passé 2 ans dans un village. Et c'est ces 2 ans-là, en fait, qui sont décrits. C'est peut-être assez intéressant, d'ailleurs, comme film, puisqu'il se retrouve dans une communauté villageoise et où il noue une amitié avec le chef du village. Et c'est très court, hein, c'est sur 2 ans. Et cet ancien roi de Joseon va vivre dans ce village pendant 2 ans jusqu'à ce que la personne qui a pris le trône ordonne sa strangulation pour éliminer un rival. Et donc, c'est ce chef de village qui s'occupera de la cérémonie mortuaire. Voilà. Mais...
Vous nous avez dit tout le film, là. Comment on va faire pour aller le voir ?
Alors, c'est un événement historique. C'est un peu comme le Titanic. Il y a zéro suspense.
Il faut connaître l'histoire de la Corée, quand même.
Donc, voilà. Ce film ne battra peut-être pas, mais on ne sait pas encore. Hein. Ça fait pas si longtemps.
Un autre film historique.
Exactement, qui avait fait 17 millions d'entrées.
Voilà. Sur le fameux commandant, je ne sais plus quoi, là. Non,
c'est ça. L'amiral Isun-shin, qui est le héros national de la Corée, qui, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois au XVIe siècle, avait empêché une invasion par une flotte japonaise qui était quand même plutôt composée de pirates que d'une armée officielle. Mais une flotte japonaise, effectivement, au moment où le pays était en très mauvaise passe par rapport aux Japonais. Voilà.
Et oui, et sur sa pirogue, le dragon... qui tirait 10 missiles en une seconde, il s'est occupé d'eux.
Non, pas du tout, c'est une histoire tout à fait étonnante, c'est qu'il les a attirés dans un endroit qu'il connaissait bien, à un moment où il y avait un changement de saison et donc changement de courant.
Ah là là, ils sont tous crachés comme des nazes.
Exactement, avec moins de bateaux que n'en avaient les Japonais, il a réussi à vaincre cette flotte, puisque en fait, lui savait comment ne pas s'écraser sur les récifs.
Voilà. Eh bien, si vous voulez vous aussi soutenir le cinéma français, eh bien, faites comme moi, n'allez pas voir les films que vous n'aimez pas. Non, c'était pas ça, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai confondu, excusez-moi.
Donc, voilà. Faites comme les Coréens, si vous aimez un film, vous allez le voir plusieurs fois, mais en matière de cinéma français, il faut un sacré sens de l'abnégation. On parlait d'abnégation des femmes tout à l'heure. Voilà, mais l'abnégation du cinéphile français, c'est pas mal.
Allez, on sait bien que Madame Ginette est allée voir LOL le retour au moins 4 fois. C'est beau. Bravo à vous, Madame Ginette.
Elle était en train de nous dire au revoir et vous l'avez coupée dans son élan, là. L'image mentale était insupportable.
C'est en plus.
Bon, ben, c'est dommage que vous nous quittiez à Sier parce que, vous voyez... J'allais vous parler de ces Américains qui se sont filmés là-bas au Mexique avec une margarita au bord d'une piscine sur le toit d'un hôtel en faisant « Oh là là, c'est la guerre au Mexique, c'est dur !» Évidemment, des vidéos qui ont très peu plu aux Mexicains. On se demande pourquoi.
Comment vous m'étonnez ?
Pendant que les narcotrafiquants se mitraillaient dans les rues.
C'est ça, voilà. On vit dans ce monde-là. Hein. C'est ça qui est quand même complètement fou.
Oui, on l'a pas fait exprès. Hein.
C'est ça, non, on n'a pas choisi, mais enfin quand même. Hein.
On n'avait rien demandé à la base. Hein.
Oui, ouais, bah, peut-être il serait temps. Peut-être il serait temps de demander quelque chose. Moi, je veux un autre monde. Quand je pense à toutes ces Miss Univers, Miss Monde, Miss Machin qui ont dit à chaque fois qu'elles voulaient la paix dans le monde. Mais personne ne les écoute, ces nanas.
Manifestement.
Non. Bon, bah écoutez, Madame Ginette, c'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Tout à fait partagé.
Et puis, on vous laisse partir, vaquer à vos occupations. Et nous passons tout de suite à l'imitation de Monsieur Kogan par Madame Henriette.
Pardon ?
Qu'est-ce que c'est pas prévu, on a oublié de vous le dire.
Non, pas du tout, j'étais absolument pas prévenue.
Allez, on reste quelques instants au Mexique. Et donc justement, donc effectivement, lorsque les forces spéciales mexicaines ont dézingué El Mencho, eh ben voilà, ça a été un peu la guérilla dans certains quartiers, tout ça. Donc les Américains, non seulement certains ont cru très spirituel, donc de monter à la piscine de l'hôtel, de faire des vidéos en disant oh, regardez ces crétins, alors que nous on est bien là sur le toit de l'hôtel, bon très bien. D'autres, dans un goût tout aussi douteux, ont fait des vidéos où ils étaient en train de prier dans leur chambre d'hôtel en disant « Au secours, on va se faire massacrer !» Alors qu'ils sont évidemment dans des hôtels sécurisés, avec des gars lourdement armés en bas. Hein.
Oui, mais c'est tellement rigolo de se faire peur.
Voilà. Et Zacarias de la Cerda, vidéaste mexicain, lui, carrément, il a filmé des Américains et je crois qu'il y avait également des Canadiens qui, voyant un magasin dévasté par les balles et par le feu et par tout ça, parce que les mecs étaient passés, ils avaient tout dézingué, ben, sont allés servir, sont allés prendre quelques trucs qui restaient, qui étaient encore en état, voilà. Alors, il leur a fait remarquer que s'ils faisaient ça chez eux, ils iraient en tôle, et les mecs l'ont regardé en ricanant, en disant qu'ils n'avaient rien à cirer, sauf certains, quand même, qui sont allés reposer les produits, se sentant un peu merdeux, mais non, vous voyez, non, sinon, tout va bien. Et je voulais finir sur le Mexique, sur cette affaire. Donc, c'était un article du Monde hein, qui raconte tout ça par l'envoyé spécial là-bas au Mexique. Et donc, elle finit quand même sur un point très intéressant. C'est qu'évidemment, pour se faire la guéguerre, comme ils ont fait là, les cartels mexicains, dont Trump a dit pique-pendre, eh bien, il faut des cartouches. Hein, il faut des bonnes vieilles cartouches à mettre dans tous ces flingues, et notamment du calibre 50. C'est-à-dire des gros trucs qui traversent les voitures et tout. Hein. Et qui c'est qui fabrique ce genre d'armes et de balles? Oh, les Américains! Et figurez-vous que la moitié des balles, d'après le général Ricardo Trevilla, eh bien la moitié des cartouches qui sont donc capables de perforer notamment un véhicule blindé, eh bien proviennent de l'usine Lake City Army Ammunition Plant du gouvernement des États-Unis. Voilà.
C'est rigolo, il pourrait y avoir des mesures de rétorsion après Trump qui veut mettre des mesures de rétorsion parce que certains pays font rentrer de la drogue chez lui, eh bien peut-être il pourrait y avoir l'équivalent puisqu'il fait rentrer des armes chez les autres.
Non, vous pensez? Mais non, parce qu'il va vous dire que c'est faux, que non, que c'est comme ça que marche le monde. Alors d'ailleurs, il a assez agacé la présidente mexicaine, puisqu'il a dit que c'était lui qui avait dézingué El Mencho. Et donc, quand on lui a demandé, mais c'est pas vos services, madame la présidente, elle fait, oh, vous savez, Trump. Allez, je vous lis une petite poésie pour finir, et puis peut-être après un article que m'avait fait parvenir madame...
C'est votre participation au Printemps des Poètes?
Ouais, c'est pour le Printemps des Poètes et puis c'est pour mettre un peu de... Et puis en ce moment, je sais pas, j'ai un truc avec Théophile Gautier, donc j'arrête pas d'en lire. Alors je me dis, de temps en temps, il faut que je vous en fasse partager.
Monsieur Edmond vit une histoire avec Théophile Gautier.
Ouais. Bon, enfin avec ce qu'il en reste, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, mais bon. Allez, un petit poème de 1834 qui s'appelle « Le trou du serpent ». Au long des murs, quand le soleil s'y donne pour réchauffer mon vieux sang engourdi, avec les chiens auprès du Lazarone, je vais m'étendre à l'heure de midi. Je reste là, sans rêve et sans pensée, comme un prodigue à son dernier écu, devant ma vie aux trois quarts dépensée, déjà vieillard et n'ayant pas vécu. Je n'aime rien, parce que rien ne m'aime. Mon âme usée abandonne mon corps. Je porte en moi le tombeau de moi-même et suis plus mort que ne sont bien des morts. Quand le soleil s'est caché sous la nue, de vers mon trou je me traîne en rampant, et jusqu'au fond de ma peine inconnue, je me retire aussi froid qu'un serpent. Non, ça vous plaît pas?
C'est très très bien écrit.
Allez, on finit, il nous reste 2-3 minutes.
C'est mieux écrit que bien des tubes de Maître Gims.
On ne citera personne. Hein. Voilà. C'est pas gentil pour Jules. Hein. Bon, alors, un ex-argentier de l'Élysée, et ça, c'est Madame Ariette qui m'avait fait parvenir cet article.
Oui, car j'ai beaucoup ri.
Alors, ça ne lui arrive pas souvent à Pascal Robert Diard, cette excellente journaliste spécialisée dans les procès judiciaires. Eh bien là, elle était devant le tribunal correctionnel. On se dit, bah, qu'est-ce qu'une immense journaliste comme ça, d'habitude qui est aux assises, tout ça, dans des affaires un peu... va faire au tribunal correctionnel de Paris. Alors, je ne sais pas comment elle avait eu l'info, mais elle savait qu'elle allait comparaître un ex-argentier de l'Élysée. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, il comparaissait pour avoir dérobé et recelé plus d'une centaine de pièces de la vaisselerie nationale. Et je regrette vraiment que M. Kogan ne soit pas avec nous, parce que je suis sûr qu'il a lu cet article avec beaucoup d'attention.
Et oui, car il y avait du Sèvres et il y avait du Limoges.
Exactement. Alors, une centaine de pièces donc qu'on aperçoit parfois sur les images, effectivement, lors des dîners d'État. Voilà. Alors, le mec n'est pas très vieux, il avait une trentaine d'années. Apparemment tout rond, calvitie précoce, nous dit Pascal Robert Diard. Et visiblement, très honteux quand même à son procès. Hein. Alors, il comparaissait avec deux autres gars, puisque bon, il a été aidé par un copain brocanteur. Et après, il a aussi vendu beaucoup à un jeune collectionneur versaillais, qui, vous allez voir, bon, c'est assez rigolo comment il répond au juge. Alors, l'alerte est remontée à l'été 2025, quand l'intendant de la résidence présidentielle constate la disparition de plusieurs assiettes. À mon avis, il voulait dresser la table pour je ne sais quel repas. Il fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et notamment des assiettes du service Duplessis, dit aux oiseaux. Alors après, ils se sont aperçus qu'il manquait aussi des statuettes de Lalique, des pièces d'argenterie. Et le service de veille de la manufacture de Sèvres, visiblement, ils ont des gars qui passent leur temps à ça. Ben, s'aperçoivent que des assiettes estampillées Élysée sont en vente sur un site de vente en ligne. Vous voyez un peu les voleurs quand même. Hein. Les mecs se sont dit, tiens, on va mettre ça sur le bon coin, ça fera bien. Alors évidemment, ils vont vite remonter au gars, surtout que dans leur employé, ils s'aperçoivent quand même qu'il y a un des argentiers qui a l'habitude de se planter lorsqu'il fait ses inventaires. Il y a beaucoup d'erreurs dans ses inventaires. Donc évidemment, pour faire disparaître des objets, rien de plus simple. Alors, perquisition chez le bonhomme, on retrouve des dizaines de pièces dans l'appartement, dans le casier du gars à l'Élysée et dans la voiture.
Et oui, il faut souligner qu'ils ne vendaient pas tout, puisqu'en fait, ce sont des amateurs hein, de belles vaisselles. Et donc, il y en avait une partie qu'ils avaient gardée parce qu'ils adorent la vaisselle.
Excusez-moi, s'il en avait dans le casier, dans la voiture et chez lui, il était un peu débordé quand même. Fallait arrêter de piquer, là.
Oui, non, mais là où il faut se faire un buffet sur mesure pour tout ranger. C'est un vrai souci d'aimer la vaisselle.
Alors effectivement, au début, dit qu'il a commencé, eh bien, il ramenait un peu de porcelaine de Sèvres, de Limoges chez lui pour la beauté, hein, pour la beauté du geste. Hein, je sais pas. Et il laissait exposer les pièces et voilà, quand il recevait des gens, il leur disait « Ah oui, j'ai un peu de Sèvres chez moi
!» Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'aimez pas la porcelaine.
Alors, je ne sais pas combien ils sont payés à l'Élysée, mais lui, il dit qu'à un moment donné, il a eu une grosse facture à payer. Il s'est dit, j'y arrive pas, donc autant piquer des assiettes. Voilà, oui, c'est assez bizarre. Hein. Donc, le fameux gars à qui il a vendu...
Alors, ça, c'est ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces personnels qui manipulent les objets de luxe toute la journée ne sont pas très bien payés.
D'accord.
Et c'est, ouais. C'est ce que dit l'article, hein, si
ouais,
je me souviens bien.
Bon, elle dit pas exactement combien il touchait à l'époque. Alors, donc le gars qui avait quand même acheté pour 15 000 euros d'assiettes à ce voleur, un jour voit un reportage à la télévision et il s'aperçoit que le mec qui lui a vendu les assiettes, eh bien, il est maître d'hôtel argentier à l'Élysée. Alors que quand il avait rencontré le gars lui avait dit que c'était un héritage, toutes ces assiettes. Alors là, il commence à se dire « Ouh, ça sent peut-être pas bon cette affaire ». Parce que sans doute qu'en plus, il y avait une petite estampille Élysée hein, sur les fameuses assiettes. Mais il dit au juge « Oh ben, j'avais déjà acheté la plupart des objets, j'ai fermé les yeux en me disant que les faits étaient anciens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis dévasté ». Ok, bon voilà. Bon, ils ont tous demandé pardon. Hein. Heureusement, beaucoup du matériel a été retrouvé. Et quand même, la manufacture de Sèvres avait évalué les vols à 377 000 euros. Ils avaient dû en sortir hein, quand même.
Oh, ça chiffre vite, vous savez.
Oui, la petite cuillère, là, c'est 150 000 euros. Non, pas du tout. Voilà, c'était pour finir sur une note un peu plus légère. Donc, si vous travaillez à l'Élysée, ne faites pas ça. Hein, les objets qui sont à l'Élysée restent à l'Élysée. Même si vous êtes ministre, n'oubliez pas de tout rendre quand vous repartez. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. on l'espère, joyeux, malgré qu'entre-temps, il y aurait eu des résultats d'élection.
Mais je vous trouve bien pessimiste.
C'est vrai. On en reparle la semaine prochaine. C'était Je m'ennuie bien.
Bonne semaine à tous.